Vous écoutez On lit pour vous.
Semaine québécoise des personnes handicapées. Un texte de la rédaction paru le 23 avril 2025 sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ. La Semaine québécoise des personnes handicapées se déroule chaque année du 1er au 7 juin. Cet événement souligne l'importance d'agir pour améliorer la participation sociale des personnes handicapées. C'est une semaine qui met en lumière les bons coups réalisés pour réduire les obstacles qu'elles rencontrent. Devenir des acteurs de changement. Chacun peut faire sa part pour vivre dans un monde plus inclusif. Qu'il soit individuel ou collectif, les gestes que vous posez comptent plus que vous ne l'imaginez. Ils sont même une source d'inspiration. Parce qu'encore aujourd'hui, il faut continuer d'agir. Dans bien des situations, les personnes handicapées pourraient réaliser la même activité qu'une personne sans incapacité. Il faut alors que les obstacles aient été éliminés. Pensons notamment à l'accès à des logements accessibles, à des commerces, à des restaurants, à des lieux récréatifs, au transport ou à un emploi. Pouvez-vous contribuer à faire tomber les barrières? Ne sous-estimez pas votre rôle. Votre implication est essentielle. Vos actions peuvent aider une personne à s'impliquer dans la société, être autonome, prendre sa place, se sentir bien. Voir au-delà de la différence. Reconnaître le potentiel d'une personne handicapée, c'est lui permettre de se sentir accepté comme une personne à part entière. Une personne qui a des objectifs, des ambitions et des rêves. Engagez-vous à valoriser ses talents et ses aspirations. Soutenez-la dans son parcours de vie. Soyez un allié actif. Si vous en avez l'occasion, présentez-vous à une personne qui a une incapacité pour apprendre à la connaître. Comprendre les besoins et les perspectives des gens qui nous entourent est essentiel. C'est ainsi que nous pourrons mieux saisir les défis du quotidien de chaque personne et adapter nos actions en conséquence. Bien sûr, il importe de respecter l'espace personnel d'une personne handicapée avant de vous adresser à elle ou de poser un geste pour l'aider. Si elle a besoin d'aide, laissez-vous guider. Elle sait ce dont elle a besoin et ce qu'il faut faire pour sa sécurité. Si elle vous dit que tout va bien et qu'elle refuse votre aide, respectez son choix et son autonomie. Si vous prévoyez faire une activité avec une personne handicapée, demandez-lui comment éliminer les obstacles pour que tout se passe bien. S'ouvrir à la différence est le premier pas en vue de créer un espace où chacun est respecté et valorisé pour ses contributions uniques. Reconnaissez la place qui lui revient pour qu'elle développe ses capacités, qu'elle soit autonome et qu'elle participe pleinement à la vie en société. Améliorer la participation sociale des personnes handicapées. La participation sociale des personnes handicapées peut prendre différentes formes. Par exemple, une dame a une incapacité visuelle. Elle va travailler en toute sécurité parce que le feu de circulation qu'elle utilise pour traverser la rue émet un signal sonore. Un jeune homme a une déficience intellectuelle. Il prend l'autobus seul pour aller à l'école parce que le chauffeur lui indique quand descendre. Une personne aînée qui se déplace en fauteuil roulant fait ses courses au commerce du coin parce qu'il y a une entrée accessible. Lorsqu'on pense à une personne handicapée, on peut imaginer Agathe une fillette qui a une déficience intellectuelle. Jean, 63 ans, qui a un trouble grave de santé mentale. Mélissa, une maman ayant une incapacité auditive. Charlie, une adolescente qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui se déplace avec son chien d'assistance. Caroline, une jeune adulte de 24 ans, ayant une paralysie cérébrale depuis la naissance. Benoît, qui a une incapacité visuelle depuis 10 ans. Charlotte, une étudiante ayant un trouble de langage. Près d'1,5 million de personnes ont une incapacité. Cela représente 21% de la population québécoise de 15 ans et plus, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. Une personne handicapée, c'est une personne qui a une incapacité significative et persistante. Cette incapacité la rend susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités quotidiennes. Testez vos connaissances. Savez-vous combien de personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans occupent un emploi? Pour être considéré comme une personne handicapée, faut-il naître avec une déficience ou une incapacité? Quelles actions pourriez-vous faire pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées? Participez au jeu questionnaire qui suit pour mieux connaître la situation des personnes handicapées que vous côtoyez. Jeu questionnaire de la Semaine québécoise des personnes handicapées 2025 en 11 questions. 1. Quel est le pourcentage des personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans qui occupent un emploi au Québec? A. Près de 40%. B. Près de 50%. C. Près de 70%. D. Plus de 75%. Réponse. C. Près de 70%. Explication. Plus du 2/3 des personnes handicapées de 25 à 64 ans au Québec occupent un emploi. Ce taux était de 56% en 2017. Il s'agit d'une augmentation significative. Il demeure cependant nettement sous celui des personnes sans incapacité du même groupe d'âge, 80%. Plusieurs personnes handicapées inactives sur le marché de l'emploi veulent travailler et sont en mesure de le faire. Il est donc important de mettre en place des mesures pour favoriser leur intégration et leur maintien en emploi. 2. Combien y a-t-il de personnes handicapées âgées de 15 ans et plus au Québec? A. Environ 400 000. B. Environ 500 000. C. Environ 1 500 000. D. Environ 2 millions. Réponse. C. Environ 1 500 000. Explication. Au Québec, le nombre de personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité était estimé à 1 422 020 selon l'enquête canadienne sur l'incapacité, ECI, de 2022. Cela représente 21% de la population. 3. Comment agir si une personne qui semble avoir des difficultés de compréhension ou une incapacité intellectuelle vous téléphone? A. Vous lui parlez comme si vous parliez à un enfant. B. Vous lui demandez si elle a compris votre message. C. Vous vérifiez si vous avez bien compris ce qu'elle exprime en reformulant ses propos à l'aide de questions courtes et de mots simples. D. S'il y a lieu, vous faites pour elle le meilleur choix possible. Réponse. C. Vous vérifiez si vous avez bien compris ce qu'elle exprime en reformulant ses propos à l'aide de questions courtes et de mots simples. Explication. La personne ayant cette incapacité a de la difficulté à comprendre les concepts abstraits ou à anticiper les conséquences d'une action. Donnez-lui le temps d'exprimer son besoin sans l'interrompre et familiarisez-vous avec la façon dont elle s'exprime. Pour mieux l'accueillir, assurez-vous que la personne comprend votre message. Utilisez des phrases courtes et des mots simples. Utilisez des éléments visuels pour illustrer vos propos. Posez-lui des questions fermées ou demandez-lui de résumer vos explications dans ses propres mots. Vous écoutez Semaine québécoise des personnes handicapées, un texte de la rédaction paru le 23 avril 2025 sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ. 4. En quelle année a été adoptée la première loi québécoise relative à l'intégration des personnes handicapées? A. 1978. B. 1985. C. 2004. D. 2009. Réponse. A. 1978. Explication. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées a été adoptée en 1978. Elle a été révisée en profondeur par l'Assemblée nationale en 2004. Elle est maintenant intitulée « Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ». En complément de la loi, c'est en 2009 qu'a été adoptée la politique gouvernementale à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité. L'Office a le mandat de faire l'évaluation de sa mise en œuvre et des résultats atteints. 5. Vrai ou faux? Pour être considéré comme une personne handicapée, il faut naître avec une déficience ou une incapacité. A. Vrai. B. Faux. Réponse. B. Faux. Explication. Une personne peut naître avec une déficience ou une incapacité. Elle peut aussi en développer au cours de sa vie, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie. Elle peut également être liée au vieillissement. Le terme « personne handicapée » se définit ainsi. Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. C'est donc la gravité de l'incapacité et sa persistance dans le temps qui sont ici déterminantes. L'incapacité peut être motrice, intellectuelle, liée à la parole ou au langage, visuelle, auditive ou associée à d'autres sens. Elle peut aussi être liée à des fonctions organiques, à un trouble du spectre de l'autisme ou à un trouble grave de santé mentale. 6. Vous êtes chauffeur de taxi. Une personne aveugle accompagnée de son chien guide s'approche de vous pour accéder à votre service de transport. Elle vous demande s'il est possible de se rendre à sa destination. Comment l'accueillez-vous? A. Vous l'invitez à prendre place dans votre taxi et vous lui proposez de l'aider en lui ouvrant la portière. B. Vous refusez sa demande en prétendant que les chiens ne sont pas autorisés à bord des taxis. C. Vous caressez la tête de son chien et le complimentez pour lui souhaiter la bienvenue à bord de votre taxi. Réponse. A. Vous l'invitez à prendre place dans votre taxi et vous l'aidez en lui ouvrant la portière. Explication. Quelle que soit son incapacité, une personne handicapée doit pouvoir accéder aux différents services comme toute autre personne. Demandez à la personne si elle désire obtenir de l'aide plutôt que de présumer qu'elle en a besoin. Également, considérez que le chien guide ou le chien d'assistance travaille. Évitez de le distraire. vous devez autoriser le chien guide dans votre taxi. 7. Les ministères et les organismes publics qui emploient au moins 50 personnes doivent produire annuellement un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Les municipalités comptant au moins 10 000 habitants doivent également réaliser cet exercice. Les plans d'action ont pour but de diminuer les obstacles rencontrés par les personnes handicapées. L'an dernier, combien de mesures ces organisations ont-elles planifiées et réalisées? A. Plus de 1 000. B. Plus de 3 000. C. Plus de 4 000. D. Plus de 5 000. Réponse. D. Plus de 5 000. Explication. Plus de 5 000 mesures ont été planifiées. Ces mesures planifiées sont variées. Elles touchent différents thèmes tels que le travail, la sensibilisation et la formation, l'accessibilité des immeubles, les déplacements et le transport, l'accès aux activités de loisirs, sport, tourisme et culture. 8. Vous êtes le propriétaire d'une salle de spectacle. Vous avez à cœur de bien accueillir la clientèle handicapée. Que faites-vous? A. Vous vous assurez que les lieux soient accessibles, rampe d'accès à l'entrée, ouvre-porte automatique, salle de toilette adaptée, etc. B. Vous formez votre personnel afin qu'il soit en mesure de bien accueillir la clientèle handicapée. C. Vous créez un site web accessible à toutes et à tous, dont les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, et vous prévoyez d'autres modes de communication. D. Vous accordez la gratuité d'entrée à l'accompagnatrice ou l'accompagnateur de la personne handicapée. E. Toutes ces réponses. Réponse. E. Toutes ces réponses. Explication. Toutes ces actions permettent de favoriser l'accès à votre salle de spectacle aux personnes handicapées. Plusieurs éléments doivent être pris en compte. L'accessibilité des lieux, l'accessibilité des communications, la formation du personnel, etc. Accorder la gratuité d'entrée à l'accompagnatrice ou l'accompagnateur d'une personne handicapée lui permet de participer plus facilement à une activité qu'elle ne serait pas en mesure de faire sans accompagnement. 9. Vrai ou faux? Une personne avec une incapacité de la parole ou du langage est liée à une incapacité intellectuelle. A. Vrai. B. Faux. Réponse. B. Faux. Explication. L'incapacité de la parole concerne la prononciation, l'articulation ou l'utilisation de sa voix, alors que l'incapacité du langage occasionne des difficultés à utiliser ou à comprendre les sons, les mots, les phrases, le discours ou encore les règles sociales de la communication. Ces incapacités ne sont pas liées à une incapacité intellectuelle. 10. Combien d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, HDAA, obtiennent un diplôme ou une qualification 7 ans après leur entrée au secondaire dans le réseau d'enseignement public? A. Plus de 9 élèves HDAA sur 10. B. Plus de 6 élèves HDAA sur 10. C. Moins de 5 élèves HDAA sur 10. D. Moins de 2 élèves HDAA sur 10. Réponse. B. Plus de 6 élèves HDAA sur 10. Explication. En effet, après 5 ans, le taux de diplomation et de qualification des élèves HDAA se situe à 46 %, soit 35 % de diplômés et 12 % de qualifiés, alors qu'après 7 ans, il se situe à 62 %, soit 48 % de diplômés et 14 % de qualifiés. bien qu'ils obtiennent le taux de qualification le plus élevé, leur taux de diplomation plus faible fait en sorte qu'ils sont proportionnellement moins nombreux que les autres élèves à obtenir un diplôme après 5 et 7 ans. 11. Vrai ou faux? Votre ouverture et vos actions peuvent aider une personne handicapée à s'impliquer dans la société, à être autonome et à se sentir bien. A. Vrai. B. Faux. Réponse. A. Vrai. Explication. Nous pouvons toutes et tous saisir les occasions qui se présentent pour accroître la participation sociale d'une personne handicapée. Il s'agit d'une responsabilité collective, d'où le thème de la Semaine québécoise des personnes handicapées 2025. Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel. Changeons notre regard pour rendre la société plus inclusive. Prendre les devants, c'est agir comme un acteur de changement, comprendre les besoins et les perspectives des gens qui nous entourent, est essentiel pour favoriser leur participation dans toutes les sphères de la société. Voir au-delà de la différence. C'était « Semaine québécoise des personnes handicapées », un texte de la rédaction paru le 23 avril 2025 sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ.
Ce besoin de lire sur les animaux. Un texte de Chantal Guy, paru le 26 avril 2025 dans la presse. On parle de plus en plus du deuil animalier. Sur ici-tout.tv, Guylaine Tremblay interroge des personnalités à ce sujet dans la série « La vie après toi ». Claude Legault et ses chats, Mariana Mazza et ses chiens. L'immense succès du livre « Son odeur après la pluie » de Cédric Sapin-Defour, qui m'a fait brailler comme un veau, doit y être pour quelque chose. Un peu comme la popularité de « La vie secrète des arbres » de Peter Wallenben, qui a donné envie à beaucoup de gens d'en apprendre plus sur le fonctionnement des forêts. Au-delà de l'engouement médiatique ou du phénomène de mode, je crois que ces livres comble plutôt un manque. D'où leur succès, dans ce sentiment poignant de la perte qui caractérise notre époque. Quelque chose de notre rapport aux autres espèces doit être raconté sur ce qui nous lie profondément. Et il faut pour cela des écrivains, pas seulement des scientifiques. Dans son formidable essai « La pensée écologique », le philosophe Timothy Martin, loin de mépriser le rapport des humains à leurs animaux domestiques, voilà une façon d'expérimenter l'étrangeté, d'avoir au moins conscience d'une autre façon d'être au monde et d'arrêter de nous mettre au centre du vivant sur cette planète. Je résiste peu à ce genre de livres, surtout quand ils sont finement écrits comme « Animaux du chagrin » de Maïté Snowhart, que je n'attendais pas. Le deuxième titre de l'autrice dans la collection « Liberté grande » de Boréal, après toute l'histoire de deuil, est une histoire d'amour. Dès le premier paragraphe, j'étais conquise. Citation. « Avec les animaux, j'explore ces déchirements intimes par lesquels nous apprenons que nous ne possédons pas le monde, ni aucun de ceux qui s'y trouvent. J'émets l'hypothèse qu'ils nous enseignent le deuil, que c'est d'abord par eux que nous apprenons le chagrin, éveilleur de la perte, embrayeur de la conscience d'un seuil, en raison de leur échelle. Quelle que soit l'égalité ou l'infériorité qu'on leur accorde dans l'ordre du vivant, les animaux sont sur une autre échelle de temps que la nôtre. Nous savons qu'a priori, nous allons leur survivre, leur vie s'inscrit en filigrane sur le fond de la nôtre et, même l'enfant accepte ce pacte tendre. » Fin de citation. Quiconque a vécu assez longtemps avec des animaux finit par comprendre qu'ils nous éduquent bien plus qu'on ne les éduque. Quand j'ai perdu mes premiers chiens, Sissi et Franz, après 15 ans d'amour, j'ai découvert que j'avais vraiment vécu dans l'illusion qu'ils allaient être là pour toujours. Pour tout dire, leur disparition m'a transformé pendant quelques semaines en une épave. J'avais l'impression que c'était tout un pan de ma vie qui était parti, la fin d'une époque, celle où nous étions quatre. Sissi, Franz, l'amoureux et moi. Aujourd'hui, nous avons une chienne et une chatte, Angie et Nanette. Et c'est un nouveau règne que nous vivons comme une renaissance. Avec ceci de différent que je sais maintenant que nos jours sont comptés. Je savoure donc chaque minute en leur compagnie, le cœur serré que leur vie soit si courte. Comme la mienne à l'échelle des arbres, j'imagine. Le chagrin de l'animal est un chagrin de côté, écrit Maïté Snowert, qui n'est pas reconnu comme une blessure officielle. Citation. Qu'on n'est pas tout à fait autorisé à pleurer. Qu'on pleure pourtant profusément, plus parfois que l'être humain, parce que la conséquence est moindre en apparence sur le bâti de notre vie. Ou parce que la digue cède. Mais peut-être en vérité, est-ce tout l'édifice qui s'effondre du bâti de notre vie lorsque la plus petite pièce vient à manquer? Celle qui tenait l'ensemble. Celle qui faisait que les morceaux s'aimantaient les uns aux autres, que les pièces faisaient maison, que les matins faisaient jour. Fin de citation. C'est beau comme ça, page après page, dans une série de courts textes qui m'ont rappelé, dans la forme, le non moins admirable « Bestiaire à pas perdu » d'Odile Tremblay, paru l'automne dernier. Quand je vous disais que je les lis tous, ces livres, ce qui est quand même drôle, car je fais partie de ces personnes qui refusent de voir un film si un animal meurt dedans. Mais ne soyez pas effrayés par le mot « chagrin » du titre de ce livre lumineux, érudit, qui parle de chats et de chiens, mais aussi de hérissons, de moutons, de vaches, d'ânes, de chevaux, de renards ou de lapins. Cette compagnie des animaux, écrit Maïté Snowert, je vois sa cohorte en arrière de nos vies, comme un escadron d'aidants, une escouade de sauveteurs naturels et bénévoles et bienveillants. C'était Ce besoin de lire sur les animaux, un texte de Chantal Guy, paru le 26 avril 2025 dans La Presse.